Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Bien sûr, j'ai eu peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. J'ai eu la chance d'avoir des vidéos qui me protègent, parce que sinon je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Des caméras ou pas caméras, ça ne devrait pas arriver.
10 longues minutes de passage à tabac, c'est ce qu'a vécu cet homme samedi dernier à Paris, roué de coups par des policiers. 4 fonctionnaires ont été suspendus et seront révoqués si la justice conclut à une faute. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, réagit ce soir Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Jean Castex a donné le mode d'emploi du confinement allégé, assouplissement qui entreront en vigueur en 3 temps. Et cela fait beaucoup de mécontents, à commencer par les restaurateurs. Plusieurs milliers ont manifesté cet après-midi à Marseille. Le Premier ministre qui a une nouvelle fois sorti le chéquier, 900 euros par mois pour les précaires et les jeunes privés de travail à cause du confinement. Nous irons en Argentine où la légende Diego Maradona va être enterré dans les heures qui viennent. La veillée funéraire a été perturbée par des incidents. Et puis, l'hommage national cet après-midi dans la cour des Invalides à Daniel Cordier, grand résistant et secrétaire de Jean Moulin. La météo de demain, très mauvaise dans le sud. Nuages, pluie et vent du Languedoc au Var, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir à l'équilibre, moins 0,08% à 5 556 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes. Les marques de vêtements sont-elles prêtes à rouvrir malgré le nouveau protocole sanitaire? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Julien Paulet, président de Promode. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
3 jours après l'évacuation brutale du camp de migrants, place de la République, c'est donc une nouvelle affaire de violence policière qui fait la une ce soir. Un producteur de musique a été passé à tabac par des policiers. Ça s'est passé samedi à Paris, dans l'entrée d'un studio d'enregistrement. Et c'est grâce aux images de vidéosurveillance que l'on a découvert aujourd'hui le long calvaire vécu par cet homme de couleur noire, Pierre Herbulot.
Oui, 10 minutes qui empêchent Michel, un bras en écharpe, de trouver aujourd'hui le sommeil. On ne sait pas encore ce qui a motivé les 3 policiers, 2 en uniforme, 1 en civil, à suivre le producteur dans son studio. La suite, en revanche, est claire comme de l'eau de roche. Sur les images des caméras du local, on voit les policiers plaquer la victime contre un mur du couloir étroit. La porte d'entrée se ferme. La violence se déchaîne, coup de poing, coup de pied, coup de matraque. Le producteur est passé à tabac, il est frappé à une 50aine de reprises, hurle au secours. Les artistes qui enregistrent un morceau au sous-sol finissent par rejoindre le producteur. En découvrant son visage en sang, il repousse les policiers hors du bâtiment, barricade la porte. Une fenêtre se brise, une capsule de gaz lacrymogène est jetée à l'intérieur du local. La pièce est enfumée dehors. Les policiers, rejoints par des collègues dans une confusion totale, ont sorti leurs armes. C'est une voisine qui filme. Les pistolets sont braqués vers l'entrée. Finalement, Michel est interpellé, toujours sans opposer de résistance à l'intérieur du bâtiment. Il reçoit quelques coups supplémentaires avant d'être plaqué au sol. Il passera 48 heures en garde à vue.
Pierre Herbulot, devant les locaux de l'IGPN à Paris, la police des polices où la victime, Michel, a déposé plainte cet après-midi. Il espère maintenant obtenir justice.
Ça a été tellement difficile à vivre. Bien sûr, j'ai eu peur. J'ai mon téléphone à la main, j'ai un policier qui me braque, qui se cache. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va tirer dès qu'on a un angle? Mais bien sûr, j'ai peur. Je suis un homme, moi. J'ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. Et je veux juste que ces 3 personnes-là soient punies par la loi. Parce qu'on a une bonne justice en France. Elle existe. Et puis, j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Parce que sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. J'aimerais que ça ne recommence plus, bien sûr, pour personne. Des caméras ou pas caméras, ça ne devrait pas arriver.
Michel, ce producteur de musique tabassé par des policiers. 4 fonctionnaires ont été suspendus à titre conservatoire par le directeur de la police nationale à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé ce soir sur cette affaire aux 20h de France 2.
Ces images, elles sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celle-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doutes, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale. Si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, bien sûr, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes qui font, dans un contexte extrêmement difficile, chacun le sait, un travail admirable. Je pense que les Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi, je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice.
Gérald Darmanin qui sera lundi auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale au sujet des violences policières de ces derniers jours. L'Assemblée qui a adopté mardi la proposition de loi sur la sécurité globale et son controversé article 24, il prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Eh bien ce texte va être modifié, annonce ce soir Jean Castex. Le Premier ministre va instaurer une commission indépendante chargée de réécrire cet article 24. C'est un fait rare, 3 des 4 policiers impliqués dans l'affaire Théo seront jugés devant une cour d'assises pour violence volontaire. Le jeune homme avait été violemment interpellé en février 2017 à Aulnay-sous-Bois. Il en a gardé des séquelles irréversibles. Et puis le procès pour corruption de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes reprendra lundi. Le tribunal correctionnel de Paris ayant rejeté aujourd'hui la demande de renvoi pour raison de santé de l'un des prévenus, l'ancien magistrat Gilbert Azibert. Après une expertise médicale, il a été déclaré apte à comparaître.
Europe Soir, le 22-22-30.
Au surlendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron sur les prochaines étapes du confinement, son Premier ministre Jean Castex a détaillé ce matin les mesures d'assouplissement. On va y revenir, mais avant, Clément Le Saffre, le gouvernement a une nouvelle fois sorti le carnet de chèques pour venir en aide aux travailleurs précaires touchés de plein fouet par ce deuxième confinement, Clément.
Oui, les travailleurs précaires en ce moment, ce sont les saisonniers des stations de ski, les intermittents privés de spectacles ou encore les extras dans la restauration. Ils n'ont plus aucune activité. Le gouvernement va donc les aider en leur assurant un revenu de 900 euros par mois. Cette aide sera versée par Pôle emploi jusqu'en février à 400 000 Français, ceux qui ont travaillé au moins 60% du temps en 2019 et qui, cette année, n'ont pas de quoi recharger leur droit au chômage. Le gouvernement a également ciblé les jeunes qui, forcément avec le Covid, n'arrivent pas à trouver leur premier emploi. L'an prochain, 200 000 d'entre eux sans emploi ni études, contre 100 000 aujourd'hui, vont bénéficier d'une allocation de 484 euros maximum par mois. Ils pourront aussi se signaler auprès de la mission locale de leur ville pour se faire accompagner. Et puis les jeunes diplômés, eux aussi, sont en difficulté. Même un bac plus 5 ne suffit plus avec la crise. Ils seront aidés avec une allocation financière et un accompagnement spécifique à Pôle emploi ou à l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Enfin, on parle beaucoup de la restauration en ce moment, mais d'autres secteurs sont au plus mal. Le tourisme, l'hôtellerie, l'événementiel et tous leurs sous-traitants. À toutes ces entreprises, Jean Castex a promis une aide à hauteur de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Parmi les confirmations du jour, les auto-écoles vont pouvoir reprendre les cours de conduite et les agences immobilières les visites à partir de samedi, en même temps que la réouverture des commerces. Magasins qui, par ailleurs, pourront étendre leurs horaires d'ouverture jusqu'à 21h. Les dérogations d'ouverture les dimanches seront facilitées. Les cinémas, théâtres et musées rouvriront, eux, le 15 décembre, date de la fin du confinement, remplacée par un couvre-feu. Il sera levé exceptionnellement les soirs du 24 et 31 décembre, mais cela ne veut pas dire que nous pourrons fêter Noël ou le Nouvel An, comme les années précédentes, a mis en garde le Premier ministre. Quant aux stations de sport d'hiver, elles seront, elles, ouvertes pour les fêtes, mais interdiction de faire du ski. Les remontées mécaniques resteront fermées. Quant aux bars et restaurants, Jean Castex a confirmé qu'ils ne rouvriront pas avant le 20 janvier, d'où la colère des intéressés. Ils étaient nombreux cet après-midi à manifester à Marseille, restaurateurs, cafetiers, patrons de discothèques et de salles de sport venus de toute la région, Stéphane Frangy.
Oui, beaucoup sont venus en autocar pour grossir les rangs de cette manifestation, venus de Béziers, de Nice ou encore des Hautes-Alpes. Et ce sont au final autant de messages de détresse que l'on peut entendre. Exemple avec Jacques qui se dit pour sa part pratiquement ruiné.
Je suis pas loin, après 21 ans de travail, tout ce que j'ai mis de côté est parti. J'ai fait un prêt de 100 000 euros, ce PGE est parti dans la première phase des loyers. Et là maintenant, il n'y a pas de caisse qui rentre. Donc automatiquement, ce sont sur les économies et le peu qui nous reste.
Voilà, et dans le cortège, sur les pancartes, certains comme Sandra ont écrit leur menu du jour.
Alors au menu, tout ce que notre cher Manu nous annonce, des taxes, du chômage et de l'espoir, on en a beaucoup plus malheureusement.
Et la colère monte tout simplement, chaque jour un petit peu plus. Exemple avec Jacques Mestre, le président de l'UMI de l'Hérault.
Nous faisons la distanciation, des séparations, s'il faut en faire un peu plus, on est capable de le faire. Mais il faut arrêter maintenant, je vous dis, franchement, de nous prendre pour des cons. Et attendez, vous oubliez mon personnel, il ne peut plus travailler mon personnel, il se retrouve à la rue. Attendez, mais vous avez vu ça.
Voilà, un sentiment d'urgence doublé d'une très grande défiance. Personne ici ne croit une possible réouverture en janvier prochain.
La correspondance à Marseille de Stéphane Frangy. Notez qu'Alain Griset, le ministre des PME, sera demain à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Les responsables des cultes espéraient quant à eux un peu de souplesse sur la jauge autorisée pour les cérémonies. Ils ne l'ont pas obtenue. Ce sera bien 30 personnes maximum. Écoutez l'incompréhension du père Hugues de Voilemont, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Nous sommes très déçus et surtout étonnés de cette jauge de 30 que nous n'avions jamais demandée et qui est vraiment irréaliste. Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles la décision a été prise alors qu'il y avait eu un signe du président de la République que nous avons perçu comme étant vraiment une vraie possibilité de revoir ce chiffre qu'on ne sait pas d'où il sort, qui est inapplicable surtout. Donc nous attendons à nouveau de pouvoir rencontrer, mais au bout d'un moment aussi on rencontre les personnes, on propose vraiment des protocoles très très scrupuleux, très responsables, et puis on a le sentiment vraiment de ne pas être écouté. Peut-être qu'il y aura-t-il maintenant davantage d'impatience par rapport à ce que l'État nous demande.
Le père Hugues de Voilemont, joint pour Europe 1 par Virginie Riva, les représentants de la Conférence des évêques de France seront de nouveau reçus par Jean Castex dimanche soir. Ils ont fini par s'accorder. Patronat et syndicats ont trouvé un terrain d'entente pour régler l'épineux dossier du télétravail. À l'exception de la CGT, tous émettent un avis favorable à la dernière mouture du texte soumis par le MEDEF. Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca nécessite une étude supplémentaire. C'est ce qu'indique ce soir le patron du laboratoire britannique, critiqué ces dernières heures sur les résultats publiés. Des scientifiques se sont en effet rendus compte que l'efficacité annoncée à 90% de ce vaccin était due à une erreur, les volontaires n'ayant reçu qu'une demi-dose dans un premier temps, puis une dose complète un mois plus tard. Or, l'efficacité de ce vaccin retombe à 62% pour le groupe ayant reçu deux doses complètes.
Europe 1. Le 22-22-30.
Diego Maradona était un dieu et un diable à la fois. Une dualité fascinante, attachante, qui explique le séisme provoqué depuis hier par sa disparition. La planète foot est en deuil, mais c'est en Argentine que l'émotion est la plus vive. Ils étaient des milliers aujourd'hui à Buenos Aires à se recueillir devant son cercueil, recouvert du drapeau national et d'un maillot floqué du numéro 10. Aude Villiers-Moriamé, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires et vous avez vécu cette veillée qui s'est terminée par de graves incidents.
Oui, la situation est toujours assez chaotique aux abords du palais présidentiel, la Casa Rosada, où des milliers de personnes ont défilé dans la journée pour faire leurs adieux à Diego Maradona. Lorsqu'est venu le moment de fermer la chapelle ardente au public, des affrontements ont éclaté entre policiers et supporters, qui étaient toujours très nombreux à attendre leur tour de rendre hommage à l'ancien joueur. Avant ces incidents, la journée s'était déroulée dans une ambiance plutôt calme. Les fans du Pibe de Oro étaient évidemment très émus. Écoutez le témoignage de Soledad, 42 ans.
Une émotion gigante.
Comme tous ceux qui aiment le football, je ressens une émotion immense, dit-elle. Diego était et reste le meilleur sportif de tous les temps. J'ai toujours rêvé de le rencontrer et l'annonce de sa mort si tôt m'a vraiment brisé le cœur. La dépouille de Maradona vient tout juste de quitter la Casa Rosada. Le cortège funèbre va parcourir quelques grandes avenues de Buenos Aires avant de gagner le cimetière de Bella Vista, en grande banlieue de la capitale, où l'idole des Argentins sera enterrée aux côtés de ses parents.
Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. La France a, elle, rendu cet après-midi un hommage national à Daniel Cordier, ancien résistant et compagnon de la Libération. Daniel Cordier s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 100 ans. La cérémonie s'est tenue dans la cour des Invalides, et vous y avez assisté, Lord d'Autriche.
Oui, un hommage tout en sobriété. On n'entendait que le claquement des talons des hommes qui ont porté le cercueil jusqu'au centre de la cour pavée des Invalides, sous le regard aussi d'Hubert Germain, 100 ans, le dernier compagnon de la Libération vivant, assis dans sa chaise roulante. Emmanuel Macron est revenu sur la vie de Daniel Cordier, ce garçon de 20 ans à la lumineuse légèreté qui avait rejoint De Gaulle en 40, impatient de se battre pour sauver l'honneur du pays, puis en 42 parachuté à Lyon, où il est pendant près d'un an le secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier, après la guerre, a un instant été tenté par l'engagement politique avant finalement de se consacrer à l'art moderne que lui avait fait découvrir Jean Moulin. Emmanuel Macron a salué le compagnon de la Libération qu'il était.
Cette flamme que vous avez allumée avec vos compagnons ne s'éteindra pas et elle continuera à en inspirer bien d'autres. Adieu Caracalla, et aujourd'hui, en cette cour d'honneur des Invalides, il n'en reste qu'un, c'est vous, Hubert Germain. Mon lieutenant, je compte sur vous, et vous le savez, vous ne serez jamais seul. Daniel Cordier a rejoint Jean Moulin et tous vos camarades, et leur souffle, leur bravoure sont intacts, qui vous porteront chaque jour.
Daniel Cordier sera enterré demain matin au cimetière du Père-Lachaise. Le dernier des compagnons sera lui enterré dans la crypte du Mont-Valérien. Ce sera donc Hubert Germain. Là-bas, un caveau attend le dernier des compagnons depuis 75 ans.
Merci, Lord d'Autriche. La météo, Anissa Haddadi, demain sera agitée au bord de la Méditerranée.
Oui, du Roussillon jusqu'à l'Aude et sur l'est de la Corse. Le ciel est couvert demain, il pleut toute la journée. Sur les Pyrénées, nous avons toujours des flocons qui tombent à partir de 2000 mètres d'altitude. Et puis dans ce secteur du sud de la France, sur le golfe du Lion, nous avons toujours le vent qui souffle, le vent d'autan jusqu'à 80 km/h et le vent d'est qui souffle sur le Var demain. Dans la journée, ça ne va pas s'arranger puisque les pluies vont se renforcer. Nous aurons même des coups de tonnerre du côté de l'île de Beauté. Sur le quart nord-ouest, le ciel est couvert demain avec pas mal de brouillard en début de journée, quelques éclaircies dans l'après-midi et partout ailleurs, eh bien c'est un temps sec et assez ensoleillé. Surtout si vous nous écoutez et que vous vivez entre l'Alsace et la Côte d'Azur, alors là sur toute la façade est, demain il fait très beau. Après la dissipation des nuages bas, le soleil va vraiment s'imposer. Les températures, comptez moins 2 à 2 degrés dans le nord-est demain matin, 2 à 7 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 14 au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 5 à 18 degrés, c'est sur la moitié nord qui fera le plus frais.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les marques de vêtements sont-elles prêtes à rouvrir samedi malgré le nouveau protocole sanitaire? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à son invité Julien Paulet, président de Promode. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Top à Wall Street, ou plutôt stop à Wall Street, vu que les bourses américaines étaient fermées aujourd'hui pour Thanksgiving. Du coup, la bourse de Paris a fonctionné au ralenti.
Oui, oui, Wall Street fermée pour fêter Thanksgiving. Hein. C'est l'heure de manger la dinde aux États-Unis. Demain, il n'y aura pas de séance ou une demi-séance, on va dire. Hein. Vraiment, c'est pratiquement un long week-end pour les marchés américains. Et évidemment, quand il n'y a pas les investisseurs anglo-saxons, c'est très calme en Europe. Paris a tourné au ralenti. Moins 0,08%, 5 566 points sur le CAC 40 ce soir. Une toute petite baisse après l'envolée du CAC de plus de 1000 points depuis le début du mois de novembre. C'était l'occasion de marquer une pause. Quelques valeurs industrielles qui étaient fortement remontées soufflent, comme Tarkett, le fabricant de revêtements, moins 4%. On a Trigano, le fabricant de camping-cars, moins 4% aussi. Renault, moins 2,5%. Dassault, moins 2%. Mersenne, moins 2% aussi. Et puis Michelin, Airbus, Alstom redonnent en moyenne 1%. Il y a des prises de bénéfices aussi sur le pétrole qui était bien remonté. Ça revient sous les 48 dollars le Brent. Le baril est à 47,80 dollars ce soir. Et puis l'euro reste autour des 1,19, 1,1915 face au billet vert.
Exception du jour, la spéculation qui est restée soutenue autour du groupe Atos.
Oui, le groupe de services informatiques Atos prend encore 1%, 74,80€, toujours plus haut. La spéculation n'abandonne pas le dossier malgré les démentis d'Orange qui étaient soupçonnés de préparer une opération de rachat sur Atos. Atos pèse désormais plus de 8 milliards d'euros en bourse et a donc effacé les conséquences de la crise sanitaire depuis le mois de février dernier sur le marché boursier. Atos encore en hausse ce soir d'1%, 74,80€. Sur les autres places financières, c'est très stable. Donc à Francfort, une toute petite baisse à Bruxelles, moins 0,3%. Madrid, moins 0,7%. Londres perd 0,4%. Et donc le CAC 40 en baisse légère de 0,08%, 5 566 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain Didier. 22h19 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Julien Paulet.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Promode, marque de vêtements bien connue. Un grand merci d'être en ligne ce soir avec nous sur Europe 1. Alors on peut le dire, vous êtes à quelques heures, une grosse journée de la réouverture. Première question toute simple, tout est prêt?
Ah, on est prêt, mais tellement prêt, tellement enthousiaste. Nos équipes magasins sont dans nos magasins déjà depuis deux jours pour préparer les points de vente pour qu'ils soient avec les meilleures nouveautés possibles pour accueillir nos clientes et aussi pour préparer toutes les mesures sanitaires nécessaires pour accueillir nos clientes dans les meilleures conditions possibles.
Soyons très concrets, la nouvelle mesure la plus importante, c'est un client par 8 mètres carrés. C'est tout à fait possible dans un magasin comme vous ?
C'est tout à fait possible. On a des magasins d'environ 200 mètres carrés. Ça va nous permettre d'accueillir entre 20 et 30 clientes en même temps, parce que cette jauge ne tient pas compte du personnel magasin. C'est très bien. Ça va nous permettre d'accueillir nos clients dans de très bonnes conditions, de conseils et d'accompagnement tout au long de leur processus d'achat.
Vous avez mis quoi en place pour être sûr qu'il n'y ait pas plus de monde que ce que la loi autorise?
Eh bien, écoutez, on aura la jauge qui sera affichée à l'entrée des magasins. Et puis, ce sera la responsabilité de nos équipes magasins de compter les
C'est le responsable de magasin qui doit rester vigilant au respect de la jauge. C'est ça que vous nous dites, hein?
Tout à fait. Et dans certains magasins, nous avons des vigiles à l'entrée. Et donc, ce sera leur responsabilité à eux. Ça concernera les magasins les plus critiques en termes de trafic. Ouais.
Donc, ça ouvre. Vous avez 4 week-ends pour sauver Noël. Vous allez y arriver?
Écoutez, on va tout faire pour y arriver. En tous les cas, on a une très belle collection. On était très déçus quand tout s'est arrêté fin octobre. On a encore plein de nouveautés pour les fêtes. Des produits qu'on leur a présentés aussi sur Internet ces dernières semaines.
Ça a sauvé un petit peu la mise, le click and collect, la livraison à domicile. Quel est un peu le chiffre d'affaires que vous avez réussi à faire pendant cette période si particulière?
On avait un chiffre d'affaires pur web qui était encore assez confidentiel, autour de 5% de notre chiffre d'affaires. Pendant le confinement, ça a été plutôt 10%. Et on a fait 20% de notre chiffre d'affaires grâce à quelques magasins sur des marchés qui n'étaient pas confinés, comme la Réunion, par exemple, le Luxembourg, la Suisse ou l'Allemagne. Ce mois de novembre, c'était 20% de notre chiffre. C'est bien sûr pas suffisant pour faire tourner une entreprise. Ça nous a permis d'accélérer sur des initiatives purement digitales que nous avions dans les tiroirs, et notamment donc ces présentations de collections sur les réseaux sociaux. Tous les dimanches, on a créé un rendez-vous qu'on a appelé 5 minutes 70 de mode, pendant laquelle des collaboratrices ProMode présentent nos dernières nouveautés à nos clientes en silhouetting.
Voilà. Ouais. Julien Pollet, je rappelle que vous êtes le président de ProMode, et si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est aussi parce que vous êtes en train de réinventer ProMode. Vous voulez mettre fin à la surconsommation. Pour cela, vous lancez un programme qui s'appelle ProMode for Good, donc autrement dit, ProMode pour être meilleur. Ça paraît presque illogique, quand on est une marque de vêtements comme vous, de vouloir vendre moins. Pourquoi vous lancer dans une telle démarche?
Alors justement, c'est pas illogique, parce que notre idée n'est plus d'en vendre le plus possible, mais d'en vendre le mieux possible. On a travaillé depuis 3 ans déjà sur une réduction du nombre d'options chez ProMode, sur retrouver un niveau de qualité qui va permettre à nos produits d'être plus durable dans tous les sens du terme, à la fois durable, plus écologique, mais aussi plus durable dans le temps, parce qu'on pense que on a plaisir à porter un beau produit, et plutôt que de faire un produit jetable, on va préférer à faire un produit qui aura peut-être une deuxième ou une troisième vie. Et c'est comme ça qu'on a choisi de concevoir la mode chez ProMode, un produit plus qualitatif avec le meilleur rapport qualité-prix-style, parce que c'est dans notre ADN aussi, hein, on a toujours été une marque accessible depuis notre création par mon père il y a 45 ans, en tant qu'entreprise familiale, voilà, on est assez fiers de le dire.
C'est cette logique que vous lancez aussi votre première boutique en ligne de vêtements de seconde main.
Exactement. Et donc, c'est tout à fait dans cette logique que nous avons lancé Dressing Bees, notre site d'échange de produits de seconde main entre particuliers, de produits ProMode uniquement, avec la particularité, c'est que ProMode abonde à hauteur de 30% si la cliente qui a vendu un produit sur le site choisit de récupérer son argent par le biais d'un bon d'achat ProMode plutôt qu'en euros.
Mais vous dites que vous voulez produire moins grâce aux données que vous avez pour éviter le surstock. J'ai pas très bien compris comment ça pouvait marcher tout ça.
Pour produire moins, ça veut dire produire plus juste. Nos business models se sont construits sur de la masse. Là aujourd'hui, tout l'objet de cette transformation et de cette transition, c'est de connaître encore mieux nos clientes par le biais de la data et de lui offrir le produit qu'elle attend. Ça veut dire.
Mais c'est quoi cette data? C'est par exemple l'analyse de nos tickets de caisse?
Bien sûr que ça passe par là, mais plutôt. Grâce à des initiatives comme la production à la demande, on a lancé ça l'année dernière sur un manteau. On laissait le choix à nos clientes de précommander un modèle de manteau dans 11 couleurs différentes et 3 longueurs différentes. Nous n'avons pas vendu énormément de manteaux, il fallait le commander 6 semaines à l'avance, le payer à l'avance, etc. Mais en revanche, ça nous a donné beaucoup d'informations sur le type de manteau que la cliente attendait. Et on a pu comme ça ajuster sur la saison d'après notre collection de prêt-à-porter proposée dans nos magasins.
Autre point très important pour lutter contre cette surconsommation, vous refusez depuis 2 ans le Black Friday. et vous le transformez en ce que vous appelez un Genéos Day, qui, je crois, cette année, va vous permettre de soutenir les hôpitaux de France. C'est du marketing ?
C'est absolument pas du marketing. Notre objectif est bien, encore une fois, de changer notre équilibre de business model et de travailler plutôt en marge de sortie qu'en marge d'entrée. Plutôt que de surproduire, on préfère produire plus juste, mais en revanche, vendre toujours au prix juste. Et donc, pour éviter de rentrer dans cette surconsommation et doper finalement un chiffre d'affaires artificiellement grâce à la promotion, eh bien, on a fait le choix courageux, je pense, de sortir de cette spirale et donc de ne pas participer au Black Friday. Mmh.
La logique va être poussée jusqu'au solde ou là non, parce que quand on est un commerçant comme vous, on en a besoin quand même pour déstocker des soldes.
Notre esprit commerçant, effectivement, c'est le peu de stock résiduel qui reste soit déstocké pendant les soldes. Vous avez certainement entendu dire que les soldes n'étaient plus un événement comme ça a pu l'être. Eh bien, chez Promode, on essaye de faire en sorte que ça soit l'événement qui nous permet effectivement d'assainir nos stocks avant de passer à la saison suivante.
Eh bien, un grand merci à Julien Pollet. Je rappelle que vous êtes le président de Promode. Très bonne soirée. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h27 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Violence policière, la nausée, c'est le titre écrit en grosses lettres à la une de Libération avec en arrière-plan le visage tuméfié et sanguinolent de cet homme passé à tabac par des policiers samedi dernier à Paris. Trois jours après la brutale évacuation de migrants place de la République à Paris et alors que la loi sécurité globale fait polémique, cette nouvelle vidéo de bavure policière suscite l'indignation générale, écrit Libé, qui ajoute que de nombreuses voix, jusque dans la majorité, pointent la responsabilité du ministre de l'Intérieur et du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Trop, c'est trop, s'indigne pour sa part Laurent Baudin dans l'Alsace. C'est la goutte de sang, de sueur et de salive de trop, écrit l'éditorialiste qui pointe du doigt ces brebis galeuses, cette minorité de ripoux, racistes et voyous qui discréditent l'ensemble de l'institution policière. Gérald Darmanin en prend aussi pour son grade. Un ministre de l'Intérieur qui, depuis sa nomination, montre tel monsieur propre les muscles fermes et bombés de l'autorité. Or, pour être efficace, la force de l'État se doit d'être naturelle, conclut Laurent Baudin. Télétravail, ce qui va changer, titre Les Échos qui reviennent sur l'accord trouvé entre syndicats et patronat. Accord ni prescriptif ni normatif comme le souhaitaient les employeurs. Le Figaro consacre sa une au casse-tête d'un Noël sous contrainte. 63% des Français passeront les fêtes chez eux en comité restreint. Et c'est le résultat d'un sondage que révèle demain le journal. L'Opinion, pour sa part, revient sur la conférence de presse ce matin de Jean Castex. Un confinement plus light mais plus salé, titre le quotidien libéral, qui s'inquiète pour les finances de l'État après l'annonce de nouvelles aides, notamment pour les jeunes et les précaires. C'est l'engrenage du « quoi qu'il en coûte », écrit Nicolas Bétou. À peine une enveloppe a-t-elle été libérée pour les uns qu'il s'en présente d'autres au guichet. Or, dans un pays qui pratique déjà la redistribution à un niveau inégalé, tout nouveau cran franchi crée un besoin qu'il sera difficile de sevrer, conclut l'éditorialiste de l'Opinion. Et puis un mot de sport pour terminer. Il y a du foot ce soir, 4e journée de Ligue Europa. L'OGC Nice est en train d'affronter le Slavia Prague et à la 72e minute, le score est de 2-1 en faveur des Tchèques. Un peu plus tôt dans la soirée, le LOSC a été tenu en échec sur sa pelouse par l'AC Milan. Score final, 1-0. Les Lillois sont leaders de leur groupe. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ma foi, ça va. C'est le début de l'émission et ça va toujours bien à ce moment-là.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant, 22h30 et ce jusqu'à 1h du matin.
Oui, et moi je vous retrouve donc pour le flash à 23h, Julien.
À tout de suite. À l'heure.